Eh bien, bonjour, on commence en petit comité. Peut-être que le fait de commencer va attirer d'autres personnes. En tout cas, on remercie chaleureusement les maquistants de leur invitation, à savoir que c'est notre deuxième participation. Donc, cette année, on vient à deux, Olivier et moi, c'est Fred. On fait partie de Vercors Citoyens depuis, moi, depuis la création, Olivier aussi. Donc juste la genèse, pourquoi on a créé cette association? En fait, un jour, on découvre, via les médias, que nous allons avoir la joie d'avoir la construction d'un immense complexe dans notre petit village, d'un immense complexe hôtelier, destiné avant tout à une clientèle étrangère qui vient en avion, bien sûr, hein, pour profiter des bienfaits de la station. Et que ce gros complexe, qui est à l'initiative de Monsieur Tony Parker, qui est un joueur de basket, je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes fan de sport, qui s'est reconverti donc dans les affaires, souhaite monter. Donc, quand je dis un énorme complexe, c'est plus de 12, enfin, c'est plus de 12 000 mètres carrés de construction, avec une centaine de logements, 700 lits. Une structure indoor qui est grande comme un petit terrain de foot et dans lequel on aura la joie de pouvoir pratiquer de la montagne, enfin grimper sur des murs d'escalade chronométrés. Parce que c'est vrai que dans le Vercors, on n'a quand même pas beaucoup de sites exceptionnels à disposition. Donc autant le faire enfermé dans une salle. Également présent une piscine intérieure. Une piscine extérieure chauffée été comme hiver, parce qu'il faut quand même pouvoir se baigner, des spas, une restauration de 400 places, et tout ça construit sur un parking qui sera souterrain. Et donc, le maire a fait passer, on va dire, la pilule en disant que s'il construisait ce projet sur un parking, ça lui permettait de respecter la loi ZAN. ZAN, ça veut dire zéro artificialisation nette. Pourquoi? Parce qu'au départ, Parker avait un terrain situé dans un champ. Son projet était de 400 lits. Et ils ont échangé cette parcelle contre un parking. Et l'objectif du maire est de transformer ce champ en zone agricole. Il dit, moi, je respecte la loi ZAN. Il oublie certains détails. Et comment ça a pu se faire? En fait, on a eu un changement de maire aux dernières élections et l'équipe de Parker s'est tout de suite infiltrée auprès de la nouvelle, auprès des nouveaux élus. Et on va dire que nos élus ont été sensibles à cette notoriété, à ce businessman qui allait faire revivre la station, parce que sans lui, la station allait mourir. Pourquoi elle allait mourir? Parce qu'il est le seul qui s'était proposé de racheter, alors racheter, on va dire de louer l'autorisation d'exploiter les remontées mécaniques. C'est vrai que si personne ne se positionne, moi j'ai pas d'inquiétude, il y aura d'autres solutions qui sont trouvées. Mais en tout cas, la mairie disait, si Parker ne vient pas, la station meurt. C'est raccourci, mais voilà, c'était son axe d'argumentaire. Et donc Parker a dit, moi je suis OK de prendre la DSP à une condition, je fais le business que je veux. Et pour ça, je veux plus de place, je veux le parking. Bienvenue Monsieur Parker, bien sûr, nous allons échanger tout ça. Alors, en termes d'écologie, je reviens sur la loi ZAN dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Ils oublient de mentionner un élément qui est quand même important, c'est que le fameux parking qu'ils veulent construire de 500 places, ils sont gardant combien? 400 places? 400 places? Il en donne 300 à la mairie. Lui, il s'en garde 100 pour ses appartements. Eh bien, ce parking deviendra payant. Il était gratuit jusqu'à présent. Il deviendra payant, mais les sous iront pour Parker. Hein. Ils n'auront pas, enfin pour INM, ça s'appelle Infinity Nine. Donc les sous iront pour Infinity Nine. Donc la mairie, déjà, y perd. Et en termes d'environnement, ce qu'ils oublient de préciser, c'est que ce parking, pour pouvoir le construire, il va falloir créer des fondations. Les fondations sont sur 18 mètres de profondeur. Or, ce remblai, parce que c'est un remblai, est déjà constitué de déchets des anciennes constructions. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas s'il y a de l'amiante, on ne sait pas... C'est une terre morte. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a du goudron dessus. Elle ne respire pas. Cette terre est morte. En termes de législation de traitement des déchets, maintenant, c'est très complexe. On ne peut plus les emmener où on veut. Voilà. Il est demandé à ce qu'il y ait déjà un traitement fait sur place. Eh bien, ils ont trouvé le traitement fait sur place. Ces déchets seront étalés sur les pistes. Ce qui fait environ une épaisseur de 30 cm de déchets sur toutes les pistes. C'est simple ? Voilà. Sachant que les terres sur le Vercors Nord sont des terres très calcaires, où il y a très peu de terre. Et un écosystème très fragile. Vraiment très, très, très fragile. On a des plantes qui sont minuscules, des animaux minuscules. On en a des grands aussi, chamois, etc. Mais c'est un écosystème très, très fragile. Et d'étaler ces terres pourries sur ces terrains va créer du ruissellement, va polluer les nappes parce que ce qui est contenu dans ces remblais va forcément infiltrer puisque c'est des terrains calcaires. Pas possibilité de drainer, filtrer, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça, en revanche, personne n'en parle. Enfin, nous, on en parle, mais les élus n'en ont pas parlé. Donc voilà un petit peu la genèse de la création de notre asso. Au départ, on va dire que la clé d'entrée, c'est vraiment le projet Parker. Mais depuis, on a largement évolué en termes d'objectifs. Parce que maintenant, ce qu'on veut, c'est un autre projet, mais pour toutes les montagnes, qui soit beaucoup plus résilient, qui favorise les activités endogènes. On a des agriculteurs, on a des sylviculteurs, on a des apiculteurs, on a aussi des structures, je ne vais pas dire industrielles, mais enfin des structures mécanisées sur le plateau. Donc on doit travailler déjà avec ça et arrêtons de faire venir des gens du fin fond du monde. On ne voit pas l'intérêt. On a une entité, on a une marque de fabrique. On n'est pas encore dans ces stations qui se veulent, je ne sais pas si le terme bling-bling convient, mais où il n'y a plus que l'argent qui compte et la consommation, à celui qui aura la plus belle voiture, voilà. Non, on n'est pas encore là-dedans et on ne veut pas y rentrer. On ne veut pas y rentrer. Donc, on vous parlait du Vercors Sud. On sent que le Vercors Sud est beaucoup plus sensible à ces questions d'environnement, d'authenticité. Donc, on est très attachés à nos adhérents du Vercors Sud. Donc, pour travailler sur ces sujets, il ne suffit pas de manifester notre mécontentement. Ce n'est pas suffisant. On a un gros poste. Alors, on est organisé, on est très bien organisé. Très bien organisé. On a un groupe moteur dans lequel nous avons un groupe juridique, un groupe d'écoute, un groupe eau, un groupe événement, un groupe veille. Chacun s'est un petit peu spécialisé sur la thématique qui l'intéressait, parce qu'on ne peut pas tout faire. Si on veut aller au fond des choses, il faut vraiment qu'on se spécialise un peu sur un sujet. Donc, je vous disais ça parce que je voulais en venir à notre principale dépense, hein, c'est bien sûr le groupe juridique. On a une avocate, spécialisée de l'urbanisme, l'environnement et la montagne, qui a déjà remporté de jolis succès, notamment sur une ZAD qui avait été faite en montagne sur une station de ski qui s'appelle La Clusa, en vue de construire une cinquième retenue collinaire. Elle a également travaillé sur la vallée de la Maurienne. Enfin voilà, c'est vraiment une spécialiste. Donc, à travers notre avocate, nous avons déposé une plainte auprès du tribunal administratif sur ce fameux échange de terrain. Et notre acte pose la question, c'est que ce terrain qu'avait Parker, qui va devenir agricole, a une valeur vraiment moindre que celle du parking. Donc, il y a une notion d'appauvrissement des biens et des moyens de la commune. Donc, ça, c'est recevable. Le référé, c'est ça, on dit, le référé a été rejeté. Alors, le référé, ça veut dire qu'on n'a pas pu faire annuler la décision du conseil municipal, mais le fond est toujours d'actualité. Donc, on le sait, ça prend du temps. Ça peut prendre 2 à 3 ans. Mais en attendant, ils n'ont pas le droit de construire tant que notre fonds n'est pas passé au tribunal administratif. Donc là, je vous ai parlé du projet de Villars. Nous avons un deuxième projet. Sinon, ce n'est pas drôle. Alors, le deuxième projet se situe à 5 km de Villars-de-Lans, dans un village qui s'appelle Corançon. Il y a une parcelle qui a été vendue par un propriétaire. Il a le droit de vendre sa parcelle. Mais c'était une parcelle avec une forêt. Et pour séduire ou faire avancer les choses, le propriétaire, il a simplement rasé sa forêt et mis en miettes. On a des photos, il n'y a plus rien. Plus rien. Dessouché, il n'y a plus rien. C'était absolument illégal parce qu'on ne peut pas couper une forêt, même si elle nous appartient comme ça. Il faut demander des autorisations. Donc, quand on a posé la question à Federali, c'est le groupe qui va monter ce deuxième projet, associé à Tony Parker. Il a dit, c'est pas moi, c'est le propriétaire. Ah bon, très bien. Donc, le propriétaire a été jugé et il a dû verser 8 000 euros d'amende, ce qui est pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est acté. Faut le prendre comme ça, c'est acté. Il y a eu un acte juridique qui dénonce, un acte illégal. En tout cas, c'est ça. Donc ça, c'est très important. Donc nos événements récents, c'est que nous avons eu 2 consultations publiques. Une pour Villars-de-Lans, gérée par le massif de préfet parce que c'est plus de 12 000 mètres carrés. Et une sur Corançon, gérée par la préfète de l'Isère, puisque c'est moins de 12 000 mètres carrés. Celle de Villars consistait à donner son avis sur la construction de cet UTNS, je ne vais pas parler d'acronyme, de ce giga-complexe. On a eu une très forte participation, puisqu'on a eu 3 614 contributions. Ils ont essayé de saboter la consultation, puisqu'il y a des personnes bien intentionnées qui ont mis des commentaires en signant Greta Thunberg, qu'elle était pour le projet, en signant Nicolas Hulot, en signant Valérie Pommier, en signant Hugo Clément. Ils étaient tous pour le projet. Autant vous dire, Valérie Pommier, pas vraiment contente. C'est une autre association avec laquelle on travaille régulièrement, qui s'appelle Montagne Résilience. Elle a porté plainte. Donc, ils ont essayé de saboter le truc, mais ça a été assez vite entériné, repris en main. Et à savoir qu'on a plus de 80% des gens qui sont contre le projet, des citoyens. Et ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui ont argumenté contre le projet ont fourni des documents, des argumentaires construits, alors que ceux qui étaient pour le projet, c'était très léger. C'était vraiment très, très léger. Difficile de s'appuyer là-dessus pour contre-argumenter nos arguments. On a eu la participation de Montagne Wilderness, de Montagne Résilience, du groupe d'opposition, de la FOP. J'y tiens beaucoup. Voilà, donc ça, c'était pour la participation de Villars-de-Lans. Il faut savoir qu'une participation consultative publique sur une commune, généralement, c'est 1 000, 2 000 contributions. Nous, on est à 3 614. C'est énorme. On a eu la chance aussi d'avoir un appui de Camille Cronier. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle intervient sur France Inter, qui nous a interviewé 2 fois. Et c'est vrai qu'elle a été d'un soutien certain. Donc ça, c'est la consultation de Villars-de-Lans. Et on a une deuxième consultation qui a eu lieu sur Corançon, où là, il y a à peu près 800 contributions. Mais c'était plus compliqué, c'est-à-dire qu'il fallait envoyer un mail. Ce n'était pas juste un clic, où on mettait ses arguments. Voilà. Donc là, c'était un peu plus compliqué, mais 800 contributions, c'est énorme aussi. Énorme aussi. Voilà ce qu'il en est pour les sujets qui, généralement, attirent beaucoup l'attention. On a un sujet qui nous tient également à cœur, où on vient très, très souvent dans le Vercors Sud, sont les écoutes. Donc, je crois que l'année dernière, On avait deux représentants qui avaient déjà bien parlé des écoutes. Donc, les écoutes, l'objectif, c'est de prendre le pouls des gens, de tous les gens, que ce soit pour, contre notre projet. C'est apartisan. C'est vraiment prendre le pouls des gens. Et on travaille en collaboration avec des universitaires. En fait, c'est une étude sociologique, tout simplement, où on interroge donc les publics qui veulent bien être interrogés selon une grille bien déterminée. On ne donne pas du tout notre avis. Et il va y avoir là une compilation de ces écoutes. Donc jusqu'à présent, on en a fait une centaine, mais on continue, ce qui est énorme. Et c'est vrai que c'est un projet qui attire énormément l'attention des politiques. À savoir qu'à Villars, ils essayent de faire un petit peu la même chose, mais avec un petit peu moins de sérieux, si je puis me permettre. Voilà. On va présenter le travail des écoutes lors de la fête du Bleu, parce qu'en fait, on essaye d'être présent sur un maximum d'événements pour qu'on nous voit. Même si parfois on n'est peut-être pas tout à fait en accord, mais il faut qu'on soit là, parce que des fois c'est difficile d'être sur certains événements, mais c'est pas grave, on tient le coup. On tient le coup parce que la mairie est obligée de mesurer notre influence. On est de plus en plus sollicité par les médias, les politiques. Il faut discuter avec tout le monde. Nous, on est vraiment dans l'échange, dans la compréhension, faire comprendre nos objectifs. On n'est pas contre Tony Parker, on est contre son projet. Les gens, ils disent, oui, vous n'aimez pas les gens riches. Non, ce n'est pas ça, non. On ne veut pas de son projet, c'est tout. C'est tout. S'il nous fait un éco-hôtel, il n'y a pas de souci, on est pour. Mais on ne veut pas d'un projet de béton. Donc, on est vraiment dans l'écoute, dans l'échange et dans la pédagogie. Donc, on fait régulièrement des événements ouverts à tous, pour expliquer toujours dans la pédagogie, parce qu'on pense que c'est avec la pédagogie qu'on arrivera le mieux à convaincre. Et on s'aperçoit d'une chose, en tout cas vis-à-vis des politiques, c'est qu'on n'est jamais rentré dans la violence et que du coup, ils n'ont pas d'accroche là-dessus. Je ne vous cache pas que des fois, on aurait envie de rentrer dans l'art, hein, bien sûr, mais le fait de rester zen, toujours dans la pédagogie et l'échange, ils n'ont pas d'accroche. Et ça, pour nous, c'est très important. On veut vraiment rester dans le dialogue. Et ce qu'on veut, c'est que nos élus comprennent qu'on construit dans le dialogue. Ils ne pourront pas, ad vitam aeternam, nous spolier de notre montagne. Ce n'est pas possible. Il faudra qu'à un moment donné, ils nous écoutent. S'ils veulent construire, s'ils veulent avancer, il faudra vraiment qu'ils nous écoutent. Donc ça, c'était les écoutes. On a également un... Alors là, je ne suis vraiment pas spécialiste, mais on a un travail sur l'eau qui est énorme. On travaille avec également des scientifiques. Donc sur ce sujet-là, la seule chose que je voudrais dire, c'est qu'on a l'impression que l'eau, c'est très compliqué. Oui, à première vue, c'est compliqué. Mais il est important que les citoyens s'emparent de ce sujet. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait dans le Vercors Sud à ce propos-là. Je n'ai pas pris l'affiche, j'ai laissé dans le camion. Sur une mobilisation des citoyens, sur une réflexion sur la gestion de l'eau. On ne peut pas laisser impunément nos politiques gérer ce sujet-là. C'est trop grave. C'est vraiment trop grave. Et donc, moi, je vous invite, si vous avez l'occasion, si vous êtes du coin, à peut-être vous rapprocher de certaines associations du Vercors Sud qui travaillent sur ce sujet et qui montent des groupes de réflexion. Et en étant plusieurs, c'est vrai que ça crée une émulation et des réflexions et des axes d'action et de propositions. Parce que ce n'est pas le tout de critiquer, il faut également faire des projets et des propositions. On en a fait. Nous, sur Villars, on en a fait pour la délégation de services publics. Autant vous dire qu'on n'a pas du tout été écoutés. Hein. On avait, oui, certains élus qui venaient à nos conférences, mais ne participaient pas au débat et partaient immédiatement après. Au moins, ils pouvaient cocher la case « je suis venu ». Voilà, hein, je suis là. Mais nous, on voudrait que ça aille plus loin. On veut vraiment travailler avec eux.
Je vais rebondir là-dessus, moi, après. Oui. Bon, ça va, tous les détails ? Pas besoin de revenir en arrière. Il y en a certains parmi vous qui connaissaient un peu ou pas le sujet ? Non ? Parce que moi, ce qui m'anime le plus que les détails, parce que Fred fait peut-être partie de ceux qui ont la capacité d'avoir les détails, les dimensions, les chiffres que moi j'ai beaucoup moins. Pour tout vous dire, moi, je suis plutôt derrière mon écran pour faire le site de l'association avec un autre copain. C'est plus mon dada. Par contre, je suis vachement sensible à ces histoires de participation. Ça m'anime énormément. Et ce qui m'a amené, moi, à Vercors Citoyen, c'est ce que Fred a expliqué, les origines du projet démesuré de Tony Parker et puis de ses copains dans la commune d'à côté qui font mine de ne pas être ses copains, mais en fait c'est la même affaire parce que c'est le même domaine skiable, c'est un peu le même business. Le maire de Corançon, je crois que tu ne l'as peut-être pas cité, mine de rien, il est lui aussi dans un business que lorsqu'on remonte le truc, il est dans le business de celui qui veut construire à Corançon. Le maire de Villars dit respecter la loi, mais on s'aperçoit qu'il a des membres de la famille qui travaillent dans la société qui gère la station, que Tony Parker a repris avec une participation à hauteur de 75%. Donc voilà, tout ça, ça fait quand même des choses un peu glauques et opaques dont on nous dit « faites-nous confiance ». Mais par contre, la participation citoyenne, moi, c'est un truc qui m'a animé. L'action de Vercors Citoyen, c'est quelque chose qui m'a animé. Et ce que dit Fred est vachement important, parce que quand on a notamment discuté avec la FAUP, quand on a été sollicité, quand il y a eu le pique-nique contre les routes sublimes, ça montre que l'activité locale, elle a besoin de gens. Je vais pas vous l'apprendre, hein, je pense que vous le savez déjà si vous êtes là, à mon avis. C'est que vous le savez, elle a besoin de gens, elle a besoin de renouvellement. Et nous, on est à ce niveau-là où on a dépensé beaucoup d'énergie, puisque après cette grande phase que je ne vais pas redétailler, où nous sommes dans l'attente de comment dire, la décision du préfet de Massif et du préfet tout court, suite à ces deux consultations, ça va être quand même quelque chose de fondamental, puisqu'ils vont dire OK ou pas OK pour le projet. Il y a d'autres projets que vous connaissez peut-être. Hein. Il y en a un dans le Royan, par exemple, ça avait été la même chose pour une carrière. Si le préfet dit pas OK, bah, le projet, soit il doit être complètement revu, soit il stoppe complètement si le promoteur tient vraiment à garder ce qu'il avait projeté au tout début pour faire son business. Moi, ce que je tenais à dire, c'est que on n'est pas forcément contre Tony Parker, bien qu'on sache à peu près que c'est un businessman, hein, c'est pas un amoureux du Vercors. Mais ce qui nous interpelle vraiment beaucoup, c'est la manière dont les élus mènent le truc et la manière dont ils repoussent toute participation citoyenne. Et là où Vercors Citoyen essaye de s'inscrire aussi dans le territoire, c'est un peu pour l'après, parce que la place est vide, en fait. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Le cycle habituel des communes, de taille grande ou même moyenne, les élections passent, le maire enfile son écharpe et après il est tout puissant. Et on a vraiment souvent l'impression une fois qu'il a mis son écharpe tricolore, on a beau lui dire des choses, ça lui passe par une oreille, ça ressort par l'autre, et il n'y a pas véritablement de participation. Heureusement, toutes les communes ne sont pas comme ça. Et du coup, nous, on arrive en disant, c'est pas possible, en fait. Nous, on n'est pas d'accord, et on arrive à vous prouver qu'on a des gens de qualité, avec beaucoup de compétences, qui vous montrent que ce qu'on vous a promis, ce que les promoteurs vous ont promis, c'est pas vraiment la réalité, c'est pas vraiment vrai. Penchez-vous sur votre dossier, réétudiez les choses. C'est pas l'écharpe qui va vous donner la connaissance ultime, qui va vous transformer du jour au lendemain en expert de l'eau, par exemple. Parce qu'on a des gens qui se sont vraiment penchés sur le dossier. On a fait une animation à Autran-Méaude il y a 2 ans, pendant laquelle il y avait une association spécialisée dans l'eau, dont le nom m'échappe. Je sais pas si tu l'as gardé en tête. On a fait venir un ancien du parc qui était spécialisé sur l'eau. Et ça nous a montré comme quoi on est sur un massif où l'eau s'écoule et elle ne reste pas. Et à côté de ça, on ne nous donne pas les vrais chiffres sur ces projets. D'ailleurs, tout le projet, si ça vous intéresse et que vous fouillez, vous n'avez pas les vrais chiffres, vous n'avez pas les vraies quantités. Par exemple, un élément commercial du projet des élus, c'est de vous dire « c'est merveilleux, ça va sauver l'économie du plateau, on va faire plein d'emplois ». Alors déjà, plein d'emplois, monsieur le maire, c'est combien ? Quand on regarde le papier, c'est plus plein, c'est 100. Et puis quand nous, on fait nos calculs, il y a des gens qui adorent les chiffres chez nous. C'est pas vraiment 100. Ça serait plutôt autour de 10, 13, 15 peut-être. Sur des emplois, en plus de ça, à faible valeur ajoutée. genre les personnels d'accueil, les personnels pour faire le ménage dans les chambres. Et on sait pertinemment que vu la population qui occupe le plateau, bah, c'est pas vraiment une grosse population en recherche d'emploi. Donc ça va être quoi ? Une vingtaine d'emplois qui viennent d'où ? Du plateau, de la vallée. Donc ça va pas être des emplois du plateau. Donc c'est tout ce genre de détails qu'on n'a pas vraiment et qui veulent pas nous donner, bien entendu, parce que quand on creuse ou quand il y a des gens compétents creusent, ça coince un peu. Donc voilà, moi je terminerai mon propos là-dessus sur la participation citoyenne, parce que ce qui, encore une fois, me chagrine beaucoup, c'est que bah, les élus sont les représentants des gens qui ont voté pour eux. Un petit crochet d'ailleurs, les gens qui ont voté pour eux sont moins nombreux que les adhérents à l'association, par exemple. Donc des fois on dit à monsieur le maire, ça vous interpelle pas, hein. Je sais que bon, l'abstention elle s'explique sur plein de choses, mais quand même au sein d'une petite commune comme Villard-de-Lans et Corançon, regardez quoi, vous avez une association qui veut venir avec vous pour faire des projets locaux. Et je vais pas être trop bavard, mais la participation citoyenne, ben, à un moment donné, quand vraiment on devient citoyen, qu'on est présent à chaque conseil communal, qu'on est présent à chaque conseil communautaire, on a l'impression qu'on les fait chier. Enfin, on n'a pas l'impression, on le sait, de toute façon. Et ils n'en veulent pas. Mais en fait, toi, t'es pas le patron, quoi. On t'a élu. En fait, quelque part, t'es notre employé. Les boss, c'est nous. Pourquoi on ne peut pas participer, quoi ? Voilà. Donc, c'est quelque chose qui, vraiment, moi, fondamentalement, et d'une manière très basique et vulgaire, me gêne beaucoup. Et je découvre, d'ailleurs, en adhérant à Vercors Citoyens et en étant actif, je découvre ces obstacles. Je ne peux pas participer en tant que citoyen parce que je n'ai pas l'écharpe, parce que je ne fais pas partie du conseil municipal. Et même si je viens avec un bagage technique sur un domaine précis, on n'en veut pas parce que ça fait obstacle au projet. C'était mon petit moment.
En fait, le seul argument, je reviens sur le projet par cœur, le seul argument des élus, c'est de dire que s'il ne construit pas son projet, il y a le risque qu'il ne reprenne pas la délégation de service public des remontées mécaniques et qu'il n'y a pas d'autres personnes et que la station fermerait. Quand on sait qu'on est dans la région Ara et que M. Wauquiez a bien travaillé et qu'il est pour la montagne, je ne pense pas qu'on laisse tomber une station aussi importante que celle-ci. Ils ont peur, en fait. Ils ont peur. Et ils ne font pas confiance à leurs administrés. Ils ont été quand même très, très surpris de l'ampleur de notre mouvement. Autant au début, M. Parker, dans une émission sur France 2, avec Léa Salamé, là, et puis je ne sais plus comment il s'appelait, l'autre, De Chavannes, je crois. Si, il y avait une émission. Il avait dit oui, enfin les questions étaient bien préparées. De Chavannes lui dit alors, est-ce que je peux me permettre de poser une question sur votre station de ski ? Oui, bien sûr, Christophe, vas-y, pose ta question. Alors, ça se passe comment avec les locaux ? Oh, bah, très, très bien, avec les élus, nickel. Il dit, mais il n'y a pas une petite association ? Ah, mais une association ? Mais elle est minuscule, elle est insignifiante. Non, ça se passe très, très bien. Mais en fait, ça m'a mis dans une colère noire, parce que la petite association, maintenant, elle est plus nombreuse que, comme le disait Olivier, que ceux qui ont élu le maire. Et puis, on voit bien l'impact médiatique qu'on a, on est vraiment écouté. Donc, la petite association, elle prend de l'envergure. Et pour faire référence à un joli film, c'est un petit caillou dans la chaussure, quoi. Voilà. Je parlais du Mont Vanille.
On doit être un petit millier.
Ouais. Mm-hmm. Ouais.
C'est assez fluctuant, comme beaucoup d'associations. Ouais. Voilà.
Un petit millier.
Des locaux, des gens, bah, comme vous le savez, sur le plateau, et notamment les quatre montagnes, pas mal de résidences secondaires. Donc des gens qui ne sont pas forcément résidents permanents. Puis des gens aussi, des sympathisants extérieurs, des autres montagnes, des... Voilà.
Et dans les participations qu'il y a eu, c'était assez divers. On a eu des participations intéressantes de la part de sociopros, moniteurs d'autres stations. Il y a eu Tine, l'Alpe, enfin bref, qui disaient mais surtout, battez-vous, conservez le Vercors tel qu'il est. Une fois que vous avez mis le pied dans ce business de la consommation, vous n'en sortirez plus. C'est terminé. le pouvoir est à l'argent et vous, vous ne pourrez plus rien faire. Donc c'est pour ça qu'on se bat, pour conserver ce territoire authentique. Et on n'a pas besoin de ces projets pour vivre. On peut vivre autrement qu'en consommant. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ? J'ai peut-être pas tout abordé. Ah oui, une dernière chose, on a un super site dont Olivier fait partie.
Modestement.
Ouais, ouais. Des heures de boulot. On a un super site avec toutes nos vidéos, nos conférences, qui s'appelle Vercors Citoyen. Donc je vous invite vraiment à y aller. Et si vous voulez adhérer.
Au-delà du site et de ce qu'on a fait, on a des adhérents qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, férus de petits domaines, et il y en a certains qui font beaucoup de veille. Et on a collecté sur notre site un nombre d'articles et de références qui sont intéressantes pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur les problèmes de montagne. On les stocke dans le site et voilà. On a retraité tous les matins en prenant son café, il épluche tout.
Ou chercher à vous convaincre aussi, à nous rejoindre. Et d'ailleurs, en parlant de nous rejoindre, s'il y a des personnes qui seraient dans le Vercors Sud et ouverts aux écoutes, on recherche toujours du monde pour compléter notre étude de sociologie avec les universitaires. Voilà, je ne peux pas tout révéler, mais on va avoir, je pense, de bons appuis, des belles références bientôt, enfin j'espère. On monte les dossiers. Mais alors, les écoutes sont anonymes. Et puis, c'est suivant un schéma de questions bien déterminé. Nous, on ne vous donne pas notre avis. Voilà. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à revenir vers nous. On prend vos coordonnées et on vous contacte ou vous nous contactez par mail. Notre mail est sur le site. Nous contacter. Ça tu nous peux, envoie.
Tu peux peut-être, on peut peut-être résumer l'objectif des écoutes, comme tu l'as dit très vite tout à l'heure. Parce que l'émergence du projet, pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas connu, il est issu de réflexions de plusieurs membres de l'asso, dont un très investi, Barnabé, qui porte le projet, qui devrait prendre une forme, comme disait Fred tout à l'heure, un peu d'études sociologiques. Mais ce que je trouve intéressant, c'est d'aller vraiment au direct des gens et des habitants pour leur demander ce qu'ils pensent pourquoi ils sont là et comment ils envisagent l'avenir. Et c'est vrai qu'avec les questions très cadrées dont Fred parlait tout à l'heure, ça permet d'avoir une espèce de matière assez vraie. Et elle devrait à la fin aboutir à une espèce d'assise. Alors on ne connaît pas encore la forme exacte, c'est en travail avec les universitaires, qui permettrait d'avoir quelque chose qui vient des habitants. Et non pas quelque chose qui a été commandité par le pouvoir public auprès d'un obscur organisme, McKinsey ou autre par exemple, pour ne citer qu'eux, qui vont envoyer des jeunes diplômés à pas cher et qui vont nous apprendre et nous dire ce qu'on veut sur notre territoire. Voilà. Et moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans cette initiative. Donc comme disait Fred, ça continue, on ne sait pas comment on va l'alimenter en permanence, mais s'il y a des gens dans votre entourage qui sont dans le coin et qui seraient intéressés pour apporter leur témoignage, ça sera avec plaisir.
Je vous lis, alors c'est pas très agréable, mais je vous lis un petit peu les intentions de départ des écoutes citoyennes. Donc en fait, ça vient d'une intention commune de tous les habitants du Vercors et notamment de certains membres actifs de Vercors Citoyens de transmettre à nos enfants un territoire vivant et robuste. Et donc, ça part également du constat que de nombreux projets présentés comme porteurs d'avenir pour le Vercors génèrent aujourd'hui énormément de clivages. Je peux vous dire que les villages sont divisés en deux, non, parce qu'on est majoritaire, en un tiers, deux tiers. Et ça peut être parfois très, très, très tendu. Et la motivation, en fait, c'est de faire comprendre qu'il est important d'écouter avant d'agir. Or là, on a l'impression qu'ils ont mis un petit peu la charrue avant les bœufs. Alors, le projet, c'est ça, puis on va vous expliquer que c'est super bien pour vous. Voilà. Bon, nous, on pense qu'on peut agir autrement. C'est écouter les intentions de chacun pour savoir ce qu'il en ressort. Donc, on a écouté pas mal de sociopros et... Là, qu'est-ce qu'il disait ? Tac, tac, tac. Voilà, on a quelques éléments de récit du Vercors, des mots clés. Donc, on entend souvent, c'est un massif citadelle, c'est une terre de refuge. Le Vercors est un massif unique et singulier, offrant une vaste mosaïque de paysages exceptionnels et de ressources naturelles. Donc, c'est ça qu'on veut vraiment préserver. Son passé d'exception a assuré le développement d'activités variées et spécifiques. Terre d'agriculture, de résistance, de climatisme, d'excursionnisme, de tourisme, d'accueil. Le Vercors est toujours aujourd'hui source d'inspiration et d'attractivité. Donc voilà, ce sont des mots, des phrases qui ressortent régulièrement dans nos écoutes. Des mutations administratives, culturelles, générationnelles et politiques au cours des siècles ont façonné une identité forte du massif. L'activité, action de protection du territoire portée par les anciens ont permis la création du parc du Vercors. Le parc du Vercors est un terme qui intervient très, très, très régulièrement dans les écoutes et auxquelles les gens sont vraiment attachés. À savoir que le parc existe depuis 1970, pour ceux qui ne savaient pas.
Je crois que c'est le premier en France.
Ah ouais, je n'avais pas ce détail. Alors, les enjeux qui ont été soulevés par les écoutés, c'est un meilleur accès à l'habitat, une mobilité partagée et cohérente, une gouvernance associant davantage les citoyens, une transition écologique adaptée et assumée. Donc voilà, ces défis seront relevés si les clivages se réduisent et si les citoyens se mobilisent pour être acteurs de cette transition plutôt que de les subir. C'est un petit peu ce que je vous disais en préambule. Associer les citoyens au devenir de ce territoire. Il y a d'autres questions ? Je ne sais pas si...
Je ne pourrais pas te le réciter par cœur. La question, c'était par rapport à la consultation publique. Est-ce que c'est obligatoire, c'est ça ? Je n'ai plus tous les détails exacts en tête. Je ne suis pas un homme de par cœur, mais en fonction de la taille des projets, quand ça devient quelque chose de gigantesque, on est obligé de faire une consultation publique. Tu veux construire une autoroute pour traverser le Vercors, tu vas être obligé de consulter un peu tes habitants. Ça, c'est la règle, mais on le voit avec l'autoroute A69. Hein, les règles, on en fait ce qu'on veut quand on en a les moyens. C'est obligatoire. À l'époque, ça se faisait avec des cahiers manuscrits, donc les gens devaient se déplacer en mairie. Ça arrangeait bien grand monde, puisque pas grand monde se déplaçait, en fait. Sauf peut-être dans les grandes villes, avec des choses qui agitaient un peu, mais en campagne ou dans des zones un petit peu plus paysannes, on va dire, c'était pas trop le cas. L'outil numérique nous rapproche de cela. Donc c'est rentré effectivement dans cette obligation. Les services de l'État doivent en faire un résumé pour aider le préfet et ses équipes à apporter une décision. Non, c'est à peu près la même chose. Enfin, à peu près, non, j'enlève à peu près, c'est la même chose. C'est une enquête publique qui est maintenant dématérialisée. Par contre, là où je m'interroge encore, c'est si vous n'avez pas Internet à la maison, on doit pouvoir aussi participer de manière manuscrite.
Ça m'amène une réflexion quand tu dis que l'outil numérique peut nous rapprocher de la consultation publique, enfin de l'enquête publique. Oui, dans un sens, mais que à la condition impérative que l'outil numérique soit ajouté à l'enquête publique de terrain, c'est-à-dire avec le bonhomme, avec son guichet et son livre, cahier physique présent à la mairie. Parce que s'il n'y a pas ce formalisme-là, l'enquête devient au contraire, je trouve, très lointaine, un peu immatérielle. Mmh. Et si on peut beaucoup plus facilement la faire passer à l'insu des citoyens, sans qu'ils réalisent trop tard que il y avait peut-être un endroit où vous auriez pu vous positionner, c'est dommage, vous n'êtes pas venu maintenant.
Je suis assez d'accord, parce que du reste, pour ce qui nous concerne, j'ai pas vu de mairie faire chez nous, les 6 communes du plateau, j'en ai pas vu beaucoup, voire aucune, pour être réaliste et concret, faire de la pub là-dessus. Hein. Moi j'habite une commune qui est tout au bout, je passe souvent devant la mairie, j'ai pas vu d'affiches, si. Il y avait les affiches jaunes.
Oui, les affiches, c'est obligatoire.
Mais je n'ai pas croisé d'élus qui m'ont invité à participer de manière manuscrite.
Alors, c'était malheureusement également mis en avant, mais sur les sites Internet. Donc, effectivement, c'est un sujet qui a été abordé dans certaines contributions pour des personnes qui sont en rupture numérique ou qui n'ont pas d'accès à Internet. Et on a été également sollicité par un groupe de personnes d'un certain âge qui n'étaient pas du tout à l'aise et qui souhaitaient participer. Bon, ils ont réussi finalement à s'organiser autrement. Mais oui, effectivement, ça a été soulevé. Alors, il y a un inconvénient, c'est celui-ci. Il y a aussi un avantage, c'est que ça permet une ouverture à un public au niveau national, ce qui n'était pas forcément le cas des contributions papier dans les mairies. On va dire aussi, pour ceux qui, justement, argumentent du fait qu'il y a des personnes qui ont contribué mais qui ne font pas partie du plateau, que les consultations étaient centrées sur une population locale à l'époque où c'était par écrit. Voilà. Mais bon, après, ce genre de projet, ça concerne tout le monde, hein. Pas uniquement les villardo-villardiens qui ont leur business sur Villard, et ça les a forcément dérangés. Je pense que c'est vraiment une forme de démocratie. C'est donner la possibilité aux gens de pouvoir s'exprimer. C'est rare. Donc je pense que c'est bien que les gens aient pu s'en emparer, vraiment.
Oui, oui, ma remarque portait vraiment juste sur le fait que quand c'est en plus, j'ai aucun souci avec ça. Quand c'est à la place d'eux, oui, ça commence à me poser problème. De la même manière, par exemple, très simple, hein, avant, j'avais une perception dans mon village où je pouvais aller discuter, poser des questions, etc. Maintenant, je n'ai plus que mon espace, j'allais dire client, sur impo.gouv.
Ouais, non, mais. Normalement, après, on va voir ce qu'ils vont en faire. Parce que quand vous allez sur le site donc national, hein, qui s'appelle registre.gouv.fr, je crois, vous voyez toutes les consultations publiques de France et de Navarre. C'est assez édifiant. Qu'est-ce que ça va donner? Surtout la nôtre, hein, qui nous intéresse le plus. Est-ce qu'il y aura un déni démocratique face à toute cette participation? Comme l'a dit Fred tout à l'heure, quand même des participations de qualité. Je ne suis pas certain que de manière manuscrite, j'aurais pu venir avec mon petit dossier sous le bras et puis poser à côté du registre que j'aurais rempli mon propre dossier, parce qu'il y en a qu'on passait des heures...
45 pages d'analyse de tous les dossiers, c'est impressionnant.
Il y a des choses assez impressionnantes.
Ouais. Ouais.
Rien que pour ça, c'était intéressant.
Et est-ce que vous avez prévu d'autres événements où vous attendez que la juridiction fasse son travail, ou est-ce qu'il y a d'autres actions ou d'autres événements où...
Il y aura, je pense, d'autres événements. Là, on est en phase d'organiser
une... En fait, on souffle peu, là. Je ne vous cache pas que mois de mars, quand on passe 8 heures par jour sur les ordinateurs pour... disséquer toutes les contributions, les analyser, les trier, on est un peu...
C'est les vacances.
Là, on est un peu en vacances.
On va avoir une assemblée générale, on ne sait pas encore comment l'organiser cette année, on va faire quelque chose de léger parce qu'on est un peu fatigué, comme disait Fred. On va peut-être même essayer de la faire en distanciel. Il y aura forcément des choses autour des écoutes, puisque les écoutes, comme elles arrivent en phase, non pas terminale, parce que peut-être qu'elles termineront jamais, mais il va y avoir une restitution. Qu'on a commencé d'ailleurs, hein, dans les endroits qui avaient été le plus ciblés, le Royan, Vercors Sud et puis les montagnes, on a déjà fait des événements là-dessus. Il y aura un événement pour la suite des écoutes, je crois même qu'une date a déjà été évoquée. Et puis surtout, il y aura des événements en fonction de l'actualité. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va... Et la volonté, elle est... pardon, je te coupe. La volonté, elle est aussi de pouvoir garder le contact avec des gens, parce qu'on a rencontré des gens qui viennent nous voir souvent. On fait généralement des événements dans les salles municipales, puisque les associations peuvent réserver les salles municipales assez facilement. Et les gens qui viennent nous voir régulièrement participent au buffet. C'est des gens qui viennent du sud, du nord, qui ne se voient pas forcément tout le temps, qui n'ont pas forcément une grosse appétence à communiquer uniquement sur face de plouc, et qui viennent en vrai. Et ça, c'est assez sympa. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y en aura d'autres, mais je n'ai pas de date à t'annoncer. Non.
La date d'étude minimum, enfin la durée, le délai d'étude minimum, c'est 4 jours. Mais vu qu'il y a 3614 contributions sur Villard-de-Lans et un petit peu moins de 1000 sur Corançon, ils nous ont donné une piste, on va dire, fin juin, début juillet. Donc c'est vrai que tant qu'on est dans les spectatives, c'est difficile de remobiliser les troupes. Parce que monter un événement, vous le voyez bien, ça demande beaucoup d'énergie. Nous, on vient là, tout est prêt, c'est top, c'est chouette, mais ça demande énormément d'énergie. Mais c'est clair qu'on a besoin, on a besoin de voir nos adhérents en face. On a besoin d'échanger avec eux, parce que c'est vraiment eux qui nous nourrissent aussi. Donc c'est important, donc c'est vraiment quelque chose qu'on va pas laisser tomber, c'est clair. Mais là, on a besoin un peu de souffler. On a quand même l'événement où on vient en tant que participant uniquement, hein, sur la fête du bleu. Du bleu, ouais. Mais bon, on y sera en tout cas, on fera des écoutes. L'objectif étant là de capter des sociopros, agriculteurs, sylviculteurs, maraîchers, apiculteurs, et puis paysans. On en a déjà, mais on en voudrait un petit peu plus. Voilà. Sinon, oui, des autres événements, on en aura, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'échéance.
Sinon, il y a une autre fête, hein, un nouveau marathon qui a lieu sur les quatre montagnes, si tu veux, qui n'a rien à voir avec les locaux, qui est bien financé par l'argent public. Et parmi l'organisateur de cet événement, tu as un pote de Tony Parker. Autre délire.
C'est pas seulement un pote.
Non, on va pas rentrer dans les détails, mais c'était le petit clin d'œil peut-être. Ouais, ouais. Charlène voulait rebondir.
Eric Garcia fait partie d'INM Media, Infinity Nine Media, donc le groupe de Parker. Donc à ce monsieur, on lui a donné 106 000 euros, plus mise à disposition du personnel des municipalités des villages traversés. Donc on aura une DSP, Infinity Nine, un front de neige avec la Nanda Resort portée par Infinity Nine. Et maintenant, on a nos animations portées par Infinity Nine Media.
Le marathon, je sais pas. Tu voulais rebondir, Charlène ?
Oui, moi je voulais rebondir un tout petit peu en arrière sur les participations citoyennes. Là, tu parlais de la Fête du Bleu, qui est un événement populaire et traditionnel du coin et qui permet aussi peut-être que vous puissiez capter et écouter d'autres types de personnes, quoi, qui sortir un peu de l'entre-soi. Et moi, je me demandais un peu sur cette question de l'entre-soi, parce que j'imagine que c'est plus facile aussi de toucher un public, on va dire grossièrement de gauche, quoi, dans vos écoutes, dans vos cercles. En tout cas, vous fonctionnez peut-être par cercle. Ou par événement.
Par cercle.
Et du coup, je me demande à quel point vous réussissez à en sortir de ces cercles. Est-ce qu'il y a des difficultés ? Enfin, en fait, je trouve ça hyper intéressant de se poser cette question-là, d'aller à la rencontre de, même pour d'autres assos. On parlait de la FOP tout à l'heure. Il y a plein d'assos du coin qui se demandent en ce moment comment briser certaines frontières, en fait, qu'il y a aujourd'hui dans le Royan Vercors, Vercors Sud, Vercors Nord. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, tu vois, pour aller. Et je me demandais si vous aviez un petit retour à faire là-dessus.
Bah, on en a un, oui. C'est dommage que les gens qui sont très actifs dans les écoutes ne soient pas là. Mais moi, ce que j'ai retenu, parce que ma femme en a fait un petit peu partie, donc voilà, j'ai un petit témoignage, c'est qu'au lancement, quand même, c'était. On aurait pu croire que c'était vraiment par le réseau, mais les personnes qui ont porté le projet, elles ont accueilli celles qui étaient prêtes à écouter. Et le deal, c'était, on va quand même organiser les choses pour respecter l'anonymat, pour ne pas être partisan du tout lors des écoutes. Et après, l'idée, c'était de rayonner. Et toi qui habites là, si tu as un contact, tu vas aller écouter ailleurs, mais moi, je vais prendre ton contact de là où tu habites. Et on s'est passé comme ça des contacts. Alors, tu as raison, il y a eu certainement un petit entre-soi de ceux qui sont les plus actifs ou qui habitent ici depuis plus longtemps que d'autres. Mais j'ai quand même le sentiment qu'on a eu la possibilité de rayonner en dehors de notre zone de confort. Ça pourrait être confirmé par les gens qui sont vraiment dedans, mais j'ai été rassuré là-dessus, moi.
Après, on a des personnes qui font partie des écoutes qui sont très impliquées au niveau du village et assez, on va dire, reconnues. Reconnues pour certains en tant qu'anciens sociopros et qui ont fait des écoutes auprès de familles qui ont construit Villard-de-Lans et qui sont absolument pour le projet. Donc, c'est intéressant, effectivement, et avoir une veille pour ne pas se cantonner uniquement à écouter des personnes qui iraient... dans notre sens, parce que ça perd de la valeur.
Et du coup, suite à ça, est-ce que vous avez pu rencontrer ces gens, avoir des espaces de discussion Je me rends pas compte, mais j'ai l'impression de loin que, comme dans beaucoup de luttes, il y a un clivage, quoi, qu'on se parle pas beaucoup. Et je sais pas si vous, de l'intérieur, vous avez l'impression que vous commencez à discuter avec d'autres personnes, que vous pouvez un peu sortir de ce clivage.
J'ai le sentiment qu'on voit des choses... comme dit Fred, il y a eu des gens écoutés qui sont vraiment pour le projet de Parker. Donc ça, c'était intéressant. Par contre, je ne sais pas si dans ta question, il y avait l'insinuation, est-ce qu'on arrive à discuter avec les opposants ? Il y a des événements, j'ai en mémoire d'avoir croisé un technicien de la société des remontées mécaniques, hein. C'est Franck qui nous en parlait, qui nous interpelle parce que pas content à cause de nous, il va perdre son boulot, machin. Et en discutant avec lui, il apprend des choses où lui, il était totalement dans la dynamique. On m'a dit que j'allais perdre mon boulot à cause d'eux, donc eux, c'est les méchants. Voilà. Il y a des trucs comme ça, peut-être un peu anecdotiques, mais ça arrive. Mais on a du mal à avoir un vrai, vrai contact et des échanges constructifs. Je sais qu'en dehors de Vercors Citoyen, il y a deux associations qui n'étaient pas forcément très copines l'une et l'autre à Autran-Méaude, qui se mettent à discuter entre eux, par exemple. Là, à Villars, c'est beaucoup plus difficile.
Ouais, Villars, ça reste la capitale du Vercors Nord, où tout le monde se regarde, où l'économie est aux mains que de quelques-uns. On est sur le même schéma qu'on retrouve partout. Donc même si des personnes qui ont été écoutées, donc on garde bien l'anonymat, donc ils ont quand même fait cet effort-là, ce n'est pas des gens qu'on verra dans nos événements. Ils ne peuvent pas s'afficher, ce n'est pas possible. C'est pas possible.
Un élément de contexte qui, moi, me perturbe beaucoup. J'ai bossé dans ma carrière en communauté de communes, donc j'ai eu à cette occasion la possibilité d'apprendre ce que c'était que la mutualisation des services publics, ce que j'ignorais avant. Et quand on arrive sur le plateau des Quatre Montagnes, on a une communauté de communes. Donc la communauté de communes qui réunit les 6 communes. Et habituellement, dans une communauté de communes, on va regrouper des compétences du type la culture, au-delà des choses très pragmatiques comme l'eau et les déchets. On va récupérer la culture, on va récupérer l'animation, on va récupérer ces choses-là. Vous arrivez sur le plateau des Quatre Montagnes, vous avez une Comcom qui vous coûte de l'argent, vous avez un office de tourisme géré par la Comcom, et vous avez l'office de tourisme de Villars-Corançon. Donc il y a dans la Comcom un mini-État, Villars-Corançon, ils sont chez eux. C'est les boss, ils ont leur office du tourisme, donc on double les emplois publics en fait, hein, donc on paye deux fois, hein, dans nos impôts, on paye deux fois, et ils décident de l'information qu'ils diffusent. Donc par exemple, très concrètement, l'office de tourisme de Villars aura exclu de sa com des sociaux pros dont on sait qu'ils ont été identifiés pas forcément favorable au projet de... Voilà, un peu de censure aussi par-dessus tout ça. Donc moi, ça me perturbe beaucoup. On a une com-com, on a de l'argent public qui part là-dedans et on a des communes qui se permettent de s'arroger la possibilité de faire dans son coin son petit truc parce que bah, voilà, c'est la station du plateau, c'est la station de ski. Y a-t-il d'autres questions ou des trucs à nous apprendre ? On en a plein à apprendre, ouais. Nous, on essaye de faire tourner un petit peu. C'est aussi pour ça qu'avec Fred, on est là ce soir. On n'est pas forcément les têtes de proue qui sommes toujours devant les caméras. Parce que comme l'a dit Fred, lorsque le mouvement a démarré, on s'est retrouvé avec des leaders un peu naturels qui ont pris le micro assez facilement. Et parmi eux, il y avait des actifs, il y avait des anciens sportifs qui ont eu à leur époque une renommée, qui ont monté aussi des choses sur le plateau et qui se sont bien fait aligner d'ailleurs. Pour rester poli, et on essaye de faire tourner ça parce que ça permet d'avoir d'autres têtes sur les journaux. Ça dilue un petit peu la haine des gens parce qu'il faut le dire, il y en a certains qui sont vraiment très bas de plafond, hein. On parlait de la coquille Saint-Jacques, qui sont même en dessous parfois, qui interpellent dans la rue violemment. Donc voilà, on essaye d'accueillir des gens qui ont un peu d'énergie pendant quelques mois et qui permettent de faire tourner les visages pour montrer que Vercors Citoyen, dans son nom, il y a citoyen et citoyenne et qu'on en a besoin pour montrer aux politiques que les citoyens, je pense, sont arrivés à une époque où ils aimeraient bien aussi participer à leur vie locale parce qu'ils se rendent compte que voilà, après le bulletin de vote, on ne peut plus fermer les yeux. Il faut qu'on soit là, qu'on soit attention et attentif. Qu'on fasse attention et qu'on soit attentif à ce qui est décidé avant que ça arrive. Parce que quand ça arrive et que les pelleteuses sont en train de creuser, c'est un peu tard. Hein. Encore un clin d'œil à l'autoroute A69. Je terminerai en vous disant, soyez vigilants, parce qu'il y a des idées de loi qui veulent faire passer les lois d'exception en disant que dès qu'on décrète qu'au-delà d'un certain montant, c'est de... Voilà, c'est d'un intérêt national, tout le reste n'existe plus, hein, les réglementations environnementales ni rien. Et voilà, poursuivre des projets qui ont été lancés malgré le manque d'autorisation. Je crois que sur le plateau, ils en seraient bien capables.
Et d'ailleurs, à ce propos, il y a eu lundi et mardi deux réunions publiques de la communauté des communes du Royan-Vercors, donc ici, Vercors Sud et Royan, à propos de l'avenir énergétique du lieu, etc. Alors, j'ai été mauvais élève, j'ai eu la flemme, je ne suis pas allé. Mais j'ai un copain qui est allé, il est revenu, en fait, en discutant. Donc, c'était pour parler de ce que ça pourrait être des projets éoliens et photovoltaïques. Et en discutant avec la personne de la ZCRV qui animait la réunion, il a senti que eux, ils faisaient ça parce qu'en fait, ils sont sans cesse sollicités par des grosses boîtes pour venir installer des hectares de panneaux solaires parce que l'hectare, il est pas cher chez nous. Donc en fait, ce genre de projet là, ça va nous tomber dessus.
Ouais, ça peut arriver. Dès qu'il y a du business possible quelque part, il y a des gens qui essayent de se positionner. Oui.
Et sur les panneaux photovoltaïques plantés dans les champs, attention, il ne faut pas se dire, c'est vrai tout, c'est juste, on vient capter du soleil. Ouais, mais on vient le capter à la place de l'herbe qui est en dessous. Ouais. Ce qui a été mangé par le panneau, ce n'est pas l'herbe qui va le manger. Donc ça ne marche pas bien pour faire du covoisinage avec les petits moutons et machin. Ça, c'est du bullshit total. J'ai lu un très beau rapport là-dessus sur le plateau des Gras en Ardèche qui subit les mêmes attaques. Et c'est remplacer la photosynthèse par du silicium. Hein, c'est rien d'autre que ça.
Peut-être juste assez personnel, mais comment vous faites pour trouver la force de rester dans le dialogue quand vous avez un peu des menaces ou voilà.
C'est un exercice de style assez intéressant quand on le découvre. Comme je l'ai cité tout à l'heure, il y en a qui ont plus souvent des problématiques que d'autres, surtout ceux qui sont sous les feux de la rampe plus régulièrement. Et chez nous, ça a été souvent les mêmes durant les premières années. Et heureusement, parmi ceux-là, il y a des têtes bien faites qui ont plus l'habitude. Nous, en interne, on a essayé aussi de s'y préparer. D'en discuter pour utiliser les bonnes expressions, ne pas rentrer dans le jeu du haters sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça que dans le petit groupe com, c'est souvent les mêmes qui s'en occupent. Donc il y en a qui vont s'occuper de Facebook, l'autre qui va s'occuper d'Instagram.
Alors, eux, vous les verrez jamais. Sont cachés.
Oui, il y a des gens qui se cachent aussi pour éviter le déferlement sur les réseaux. Hein. Il y en a qui ont fermé leur compte, j'en ai eu une en tête que je ne citerai pas, mais qui a fermé son compte Facebook en partie à cause de ça. Mais oui, tu as raison, ça demande de l'énergie de résister à ça, puis de l'énergie aussi de trouver le temps, parce qu'on n'a pas d'employés, nous, dans l'association. On a quelques retraités qui acceptent de passer plus de temps que d'autres. Les autres, c'est des actifs.
Et donc, pour venir aujourd'hui, on a pris une journée de congé. Hein.
Par exemple. Hein.
Mais c'est vrai que c'est un sujet qui nous a préoccupés et on avait évoqué peut-être de suivre une formation parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes armes, on n'a pas tous la même sensibilité et on est vraiment conscient que le fait qu'on reste tout le temps calme, pédagogique, dans l'échange, en fait, on voit que c'est notre force. C'est vraiment notre force. Et on
violence,
se rappelle tout le temps. Pas rentrer dans ce cycle-là, non.
Si vous le savez peut-être si vous êtes militant, mais la violence du côté du militantisme est moins une valeur ajoutée que dans le camp d'en face. Parce qu'en face, ils se permettent des trucs. Nous, pour ne pas les citer, il y a quand même une mairie qui s'est permis d'utiliser un canal d'information publique pour diffuser une fausse information pour faire du mal à un actif qui est très connu sur le plateau et qui est militant dans Vercors Citoyens. Ils se sont permis de faire ça quand nous, on a alerté sur le fait que ça avait déclenché une vague de haine sur Facebook. Les deux mairies concernées, puisque c'est souvent les deux mêmes, nous disent « Oh, vous vous effrayez pour pas grand-chose ». Et à aucun moment, ils ont utilisé leur pouvoir de régulation, puisque c'est leur page officielle, hein, Facebook, à aucun moment, ils sont intervenus pour mettre un terme à ce genre de truc. Pourtant, c'est leur devoir. Par contre, si toi, à l'inverse, en tant que militant dans la rue, tu oses lever le petit doigt, tu vas vite te taper un truc, une main courante, il va faire un article dans le Dobé, voyez, c'est tous des terroristes, voilà. Et pour participer aux réunions publiques, que ce soit les réunions de la commune ou de la Comcom, parfois les élus qui sont des êtres humains comme les autres, donc faillibles par définition, te lâchent des trucs et on entend des choses. Si vous bougez, on vous loupe pas. Voilà, c'est un peu le Far West.
Oui, il y a même des élus qui ont été repris par d'autres élus en disant faut peut-être se calmer quand même. Hein. Ouais. C'est parfois très très violent. Et ce qui est difficile à supporter pour les élus, c'est qu'on est présent à toutes les réunions. Il y a toujours deux personnes qui y vont. On n'y va jamais seul. Alors ça prend du temps, parce que c'est vrai que le soir, après le boulot, taper un conseil municipal, plus le lendemain, Bon, et en sachant qu'on se prend des petits pics. Voilà, c'est détourné, mais on ne répond pas. On ne dit rien. On pose nos questions neutres. Voilà. Ça, c'est une règle d'or, mais vraiment.
Un petit clin d'œil à Gandhi. Avez-vous d'autres questions?
Oh, mais je reconnais des gens.
Ou des
moi.
Choses à nous apprendre?